Merci. Alors, merci tout d'abord de m'avoir invité à parler de cette recherche. Donc, j'ai essayé d'orienter un petit peu par rapport à la problématique de la journée. Je suis contente aussi de m'entendre aux côtés de Véronique Francis pour la discussion qui suivra. Alors, ma recherche, elle est en cours, donc ça m'a permis à la fois de travailler des données en vue de cette journée, et en même temps, pour moi, c'est un petit peu compliqué, devant rester encore sur le terrain une bonne année. Donc, je vais vous présenter des réflexions en cours qui ne sont pas forcément abouties, mais qui vont aller dans le sens des réflexions de la journée. Alors, ma présentation, elle va plutôt porter donc sur cette recherche ethnographique et peut-être plus sur la partie concernant le travail éducatif des professionnels avec ces familles migrantes. Alors, je présente rapidement le terrain en quelques mots pour poser le questionnement et j'y reviendrai après dans le cours de ma présentation. Alors, par rapport au texte qui vous a été diffusé, je vais reprendre des éléments du texte parce que ça me paraît des éléments importants si le texte n'a pas été lu. Mais j'essaierai d'arriver rapidement à mes axes de réflexion. Donc, ce centre d'hébergement d'urgence est situé sur la métropole lilloise et donc il accueille à peu près une vingtaine de familles migrantes de différentes nationalités, russes, géorgiennes, nigérianes, et aussi des familles de Roumanie qui sont toutes des familles roms de Roumanie. On a une équipe socio-éducative composée d'une quinzaine de personnes. Et donc, ma présence sur ce terrain, elle se justifie donc de par mes préoccupations, comme l'a dit Johanna, même si j'ai beaucoup plus travaillé sur la scolarisation des enfants dits du voyage, donc plutôt les enfants tziganes français. Et donc, progressivement, j'ai orienté aussi mes recherches vers la question des enfants migrants. Et donc, c'est un gros pôle associatif de Lille qui m'a demandé, qui m'a posé une question et en même temps qui m'a permis d'accéder à ce terrain, à savoir la question de la scolarisation des enfants roms. Il leur semble que cette scolarisation pose problème et ils aimeraient savoir pourquoi. Donc ça, c'était la question de la commande, qui n'est pas forcément la question, moi, qui m'intéresse le plus, mais que je vais quand même traiter puisque c'est une commande institutionnelle. Et donc, pour moi, l'objectif est de voir comment ce centre d'hébergement d'urgence, finalement, constitue une communauté éducative regroupant les professionnels, les familles, les enfants, et comment cette communauté éducative participe au quotidien et dans ce contexte particulier à l'éducation des enfants et à leur scolarisation. Donc je prends en compte ces familles roms migrantes, mais je prends aussi en compte les autres familles pour justement essayer de me décentrer de la problématique rom qui est une fois de plus dans le champ de recherche les concernant, qui traduit en termes de problème. Alors, en quoi est-ce que c'est un problème à part entière, ou en quoi est-ce qu'on peut retrouver, concernant la scolarisation des enfants roms, les mêmes caractéristiques que pour d'autres enfants? Alors, dans le cadre de cette journée d'études, moi, j'ai proposé des questions, alors maintenant qui me paraissent assez ambitieuses, je vais essayer d'y répondre avec les éléments que j'ai pu traiter. Comment le travail éducatif des familles migrantes se réalise-t-il dans des conditions de vie et d'éducation différentes de celles du pays d'origine? Comment le travail éducatif de l'équipe socio-éducatif est-il pensé et mis en œuvre face à un public migrant et familial? Et puis, mais ce n'est pas forcément une question que je vais traiter directement, mais qui va être traité de manière peut-être plus discontinue au fil de mon propos, comment est-ce que d'un point de vue plus épistémologique et méthodologique, les sciences de l'éducation en tant que discipline mobilisent la notion de migration pour interroger et analyser l'acte éducatif. Donc ça, moi, au sein de mon équipe de recherche et au cours des recherches que j'ai menées jusqu'à présent, c'est vraiment le travail éducatif, tant du point de vue familial que professionnel, qui m'intéresse. Alors, j'arrive, moi, à un moment de mes recherches où le champ scolaire croise le champ du travail social. Alors, pour moi, c'est une évolution, puisque pour ma thèse et les recherches qui ont suivi, j'étais plutôt dans le champ du le champ scolaire, le champ de l'école, m'étant intéressée précisément donc à la scolarisation, notamment dans un dispositif un peu particulier qui était le camion école. Donc cette recherche, elle m'avait amené à rencontrer peut-être la notion de migration, mais sous un angle tout à fait particulier, qui était plutôt des migrations intérieures, c'est-à-dire de populations expulsées fréquemment, pourtant des populations françaises, mais vivant sur des terrains non officiels, et donc des enfants qui avaient des scolarités très chaotiques. Et donc, au moment de ma thèse, j'avais parlé de nomadisme scolaire, puisque je retrouvais des enfants qui avaient des parcours marqués notamment par la fréquentation de divers dispositifs de manière régulière ou irrégulière. Et donc, je m'étais posé la question de savoir finalement comment, historiquement, on en était venu à proposer ces dispositifs pour des enfants français et non identifiés par la catégorie ethnique, puisqu'on les appelle administrativement les gens, les enfants du voyage, les gens du voyage. Et donc ça m'a amené, alors dans le champ des sciences de l'éducation, enfin, dans le cadre, disciplinaire, donc des sciences de l'éducation ou de la sociologie de l'éducation, de voir que finalement ces enfants du voyage ne sont apparus sur la scène institutionnelle qu'en 2002, avec la création des CASNAV, en lieu et place des CEPHYSEM, et que jusqu'alors, ils étaient confondus dans la catégorie des enfants migrants. Et donc, dès la mise en place des CEPHYSEM, à la mise en place des CEPHYSEM, on ne s'est pas beaucoup préoccupé de ces enfants du voyage. Ils ont commencé à émerger en 1990, quand les missions des CEPHYSEM ont été redéfinies, mais jusqu'à présent, ils étaient confondus dans la catégorie enfants migrants. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que les recherches qui ont été menées sur la scolarisation des enfants du voyage, donc, on retient cette entrée administrative qui n'est pas la mienne, ont émergé aussi en même temps que leur visibilité institutionnelle. Et ça, on se rend compte, donc si j'introduis toujours mon propos sur la question des liens entre migration, éducation, école et travail social, on se rend compte, donc on en a parlé un petit peu en filigrane jusqu'à présent, mais que c'est tout à fait lié aussi à cette tradition à la fois sociologique de considérer plutôt la question des minorités ethniques et culturelles en France sous l'angle de l'immigration, plutôt que sous cet angle justement des minorités. Alors, juste une petite référence, Agnès Van Zanten et Jean-Paul Payet, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, ont fait notamment une note de synthèse en 96, intitulée donc, « La scolarisation des enfants et des jeunes des minorités ethniques aux États-Unis et en Grande-Bretagne et la scolarisation des enfants de l'immigration en France », qui montre bien comment la question a été traitée dans les pays anglo-saxons par rapport à la façon dont on l'a traité en France. Et donc finalement, la question de la scolarisation des enfants migrants a émergé au moment où on l'a vu émerger aussi en tant que problème social. Et je pense que par rapport à la question de la scolarisation des enfants du voyage et des enfants roms migrants, on peut faire un petit peu la même analogie, c'est-à-dire qu'on a commencé à s'y intéresser au moment où on l'a vu apparaître comme problème social. Et là, on pourrait dire que depuis quelque temps, on a un renouveau de la recherche sur ces questions-là. Jusqu'à présent, c'était un petit peu le domaine des anthropologues, des sociologues qui ont été un peu identifiés comme tziganologues, c'est-à-dire spécialistes des questions tziganes et des questions roms, alors que maintenant, ces questions-là se traduisent plus comme éventuellement des exemples pouvant illustrer des problématiques telles que les politiques publiques à l'égard des publics minoritaires, etc. Alors, donc je vais passer sur cette question du champ scolaire pour voir un petit peu comment, parce que sinon je ne vais pas tenir le temps, que je ne regarde pas du tout, comment finalement cette problématique aussi de l'immigration, des minorités, de l'éducation, elle s'est manifestée dans le champ du travail social. Alors c'est vrai que le travail social dans les sciences de l'éducation, me semble-t-il, mais d'autres le corroborent aussi, c'est pas un objet de recherche aussi prestigieux que l'école. D'ailleurs, la sociologie a le plus souvent été sa discipline refuge, beaucoup plus que les sciences de l'éducation. Et pourtant, on se rend compte que les travailleurs sociaux sont de plus en plus présents dans et autour de l'école, et notamment impliqués dans des relations partenariales, bien souvent interpellés lorsque des enfants et des jeunes rencontrent des difficultés que l'école, à elle toute seule, ne serait en mesure de résoudre. Donc moi, je me suis posé la question, en lien avec ma recherche, de savoir comment finalement cette question culturelle dans le travail social, elle est posée. Est-ce qu'il y a des similitudes avec le champ scolaire? Est-ce qu'il y a des différences? Alors, une question qu'on peut retenir là dans le, on va dire dans la littérature qui s'intéresse à ces questions-là, c'est finalement comment est-ce qu'on peut articuler des valeurs différentes, parfois divergentes, des trois acteurs de la relation éducative, les usagers, les intervenants sociaux et les institutions. Alors, ça a été un peu une question que j'ai reprise au niveau de la recherche. Alors, c'est des questions qui sont venues parfois après avoir démarré le travail de terrain, pour voir finalement, dans cette question du travail social, est-ce que, alors c'est une question qu'on a posée ce matin aussi, est-ce que finalement, dans les pratiques des professionnels, il y a quelque chose de plus ou d'autre à faire en direction des populations migrantes, ou est-ce que cette relation éducative peut se construire, peut s'établir de la même façon qu'avec d'autres populations? C'est aussi une question récurrente qui est posée par rapport au public rom. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que le travail qu'on fait avec ces populations doit être spécifique, ou au contraire, est-ce qu'il faut sortir de cette éventuellement culturalisation des, notamment des problèmes scolaires, et de prendre les choses un petit peu autrement?
Tu peux me dire combien de temps il reste, parce que
il reste 15 minutes.
15 minutes? D'accord.
Voilà. Alors, je reviendrai peut-être sur la littérature, moi, qui m'a accompagnée déjà pour traiter un certain nombre de données, à savoir donc des chercheurs qui ont travaillé notamment sur la question de la démarche interculturelle dans le travail social, et avec cette question qui n'est pas sans lien avec celle qui se pose au champ scolaire, à savoir le même dilemme que vous aviez exposé ce matin. Dans quelle mesure être attentif aux spécificités et aux différences des familles, tout en veillant à un égal traitement des personnes. Alors, il y a un auteur, notamment Boltzmann, qui analyse les pièges dans lesquels on peut tomber quand on entreprend une démarche interculturelle à destination des publics migrants. Je les rappelle rapidement, on verra, je les reprendrai un petit peu après dans l'analyse. Croire que la culture se limite au national ou à l'ethnique, et donc penser l'identité des individus uniquement à travers ces catégories d'appartenance. Considérer la culture de l'autre comme quelque chose de figé, alors qu'on peut aussi la concevoir comme un instrument pour s'adapter à l'environnement. La tendance, je le disais, à culturaliser des relations sociales, c'est-à-dire tout expliquer par la culture, et réduire parfois des situations complexe, justement, à une explication simpliste de type culturel. C'est dans leur culture, ah oui, mais les Roms, s'ils vont pas à l'école, c'est dans leur culture, voilà, ils préservent cette culture de l'oral, ils n'ont pas envie, voilà, d'aller à l'école, etc. Et puis, quatrième piège, croire que la relation à l'autre est égalitaire, et que les problèmes qu'on va rencontrer, ce sont des problèmes essentiellement de communication. On en a parlé aussi ce matin, et donc je ne reviendrai pas sur, effectivement, cette question de la relation entre les travailleurs sociaux et les usagers, qui n'ont de fait pas le même statut dans cette relation, dans cette relation, et avec un travailleur social qui est plutôt en position de pouvoir. Donc, la notion aussi de distance sociale ou de distance culturelle comme facteur explicatif des difficultés d'intégration nous paraît assez dangereuse, comme quoi la culture de l'autre l'éloignerait des normes éducatives et sociales du pays d'accueil. J'ouvre une petite parenthèse, parce que pour moi ça avait été assez signifiant. dans le contexte suisse, une institution, alors je ne sais pas comment on la prononce, Pro Juventut, je pense, si ça dit parle à quelqu'un, non, donc je la prononce comme je veux, vous ne m'en voudrez pas. Donc de 1934 jusqu'à 1975, a procédé à des enlèvements systématiques d'enfants de tziganes, en considérant que s'ils restaient avec leurs parents, ils n'auraient aucune chance de s'intégrer à la société suisse et qu'ils seraient considérés comme des marginaux. Et donc, alors, l'affaire a éclaté beaucoup de... comment dire... manière... enfin, il y a eu un temps assez important entre les faits et le moment où ça a ressurgi, notamment sur un plan médiatique. Et donc, les enfants étaient placés dans des foyers, dans des asiles. Donc, vous voyez, hein, sur 30 années, hein, jusque dans les années... fin des années 70, ce qui est quand même relativement important, au nom, justement... alors, il y a un article du Monde diplomatique qui est très bien fait, qui montre bien, sur la base d'entretien aussi, que, voilà, de par leur identité, de par leur culture, s'ils restaient dans le milieu familial, ils ne pourraient jamais s'intégrer à la société. Et c'était une association, enfin une institution, avec des travailleurs sociaux qui étaient soutenus politiquement, etc. Donc ça, c'est un des dangers, alors bien sûr extrême, hein, mais de... avec lequel finalement on peut réfléchir sur ces questions culturelles et éventuellement la question de prédominance ou de normes éducatives et sociales auxquelles il faudrait rattacher certaines communautés. Alors, voilà un petit peu la toile de fond donc de ma recherche. Je passe peut-être un petit peu trop rapidement, mais je voudrais quand même vous parler donc, de ce centre d'hébergement d'urgence. Donc, ce centre d'hébergement d'urgence, il est une des réponses à l'accueil de publics migrants familiaux. Donc, il n'est pas destiné que aux populations roms, mais de fait, de par les caractéristiques de leur migration, qui est une migration familiale, on a beaucoup plus de familles roms qui sont représentées dans ce type, comment dire, cette réponse à un problème d'accueil sur notamment en France. Sur la métropole lilloise, on dit que c'est un gros problème, mais il faut aussi se rappeler parfois un petit peu les chiffres. On a environ 15 000 Roms migrants donc, en France, qui n'est pas a priori un chiffre très important. 3000 personnes dans la région Nord-Pas-de-Calais et 1000 personnes sur la communauté urbaine de Lille. Sauf que sur ces 1000 personnes, on a à peu près une centaine de personnes qui sont accueillies dans centres d'hébergement d'urgence. Ce qui veut dire que toutes les autres personnes sont soit dans des hôtels, soit éventuellement dans ce qu'on a appelé les villages d'insertion, sont aussi un dispositif intéressant à étudier, ou alors la majorité qui vivent dans la rue, dans des baraquements, etc. Donc cette question Rom, elle est traitée à un niveau européen, elle est plus ou moins traitée à un niveau français, et par contre au niveau local, on est obligé de s'en emparer. Donc il y a une volonté politique, notamment sur la communauté urbaine de Lille, de traiter cette question-là. Et c'est pour ça que donc, la sauvegarde du Nord, se retrouvant finalement dans la situation de devoir travailler avec ces nouveaux publics, hein, qui sont arrivés en masse depuis l'adhésion notamment de la Roumanie et de la Bulgarie à l'Union européenne en 2007, se retrouve à travailler avec ces publics-là, qui n'étaient pas forcément majoritaires dans les publics accueillis dans leur dispositif. La problématique de ma recherche, donc, elle concerne la question de la scolarisation, et je dirais plus précisément la scolarisation, qui se retrouve finalement à devoir être traitée au niveau de différents territoires, qu'ils soient géographiques, sociaux et éducatifs. Et là, moi, aujourd'hui, j'ai plutôt parlé des territoires éducatifs, c'est-à-dire finalement... De quel professionnel la scolarisation doit-elle être le ressort ? Est-ce que c'est une affaire d'école ? Est-ce que c'est une affaire de champ scolaire ? Ou est-ce que c'est aussi l'affaire des professionnels du travail social ? Alors, au niveau de la méthodologie, donc, c'est une enquête ethnographique donc, qui va durer 2 ans. Donc là, je suis à la fin de la première année. Et cette année, j'ai passé beaucoup plus de temps avec l'équipe socio-éducative. Donc une fois par semaine, une demi-journée à une journée complète, et en assistant aussi de temps à autre aux réunions d'équipe. Donc une équipe socio-éducative de 15 personnes, j'inclus dedans les veilleurs de nuit, je m'en expliquerai par la suite. On est dans un hébergement d'urgence qui a perdu son sens de l'urgence, c'est-à-dire qu'au départ, les familles ne pouvaient rester que environ 3 semaines, c'était le maximum du temps d'hébergement. Donc là on est en 2003-2004. Et aujourd'hui, en 2012, on a des familles qui sont là depuis 2007, depuis 2008, 2009. Donc pour certaines d'entre elles, elles sont là depuis 4-5 ans. D'accord ? Donc je le dis juste pour reprendre cette notion d'urgence par la suite. Donc je le disais tout à l'heure, une population multiculturelle qui n'est pas sans poser problème pour le centre et sans poser problème aussi dans les relations que les différentes personnes vont nouer les unes avec les autres. On est dans un ancien hôpital et donc les familles vivent dans des chambres, des anciennes chambres d'hôpital. Et donc il y a la question de l'espace aussi qui se pose, j'y reviendrai par la suite. Alors, je vous propose 3 pistes d'analyse en lien avec cette question migratoire, alors qui va faire écho à des choses qu'on a dites depuis ce matin. Un premier axe, les migrants du centre d'hébergement d'urgence, finalement, quelle pertinence, enfin, est-ce que ce groupe en soi a une pertinence ? Et on verra que c'est une catégorie hétérogène qui oblige à questionner cette identité de migrants. Un deuxième axe sur venir d'ailleurs et vivre ici en CHU. Donc CHU, hein, faut pas confondre avec l'hôpital, hein, mais donc au centre d'hébergement d'urgence. Donc quelle négociation inter- et intraculturelle et éducative. Et un dernier axe, sur la question de la division du travail éducatif, qui est un travail en tension permanente et dans lequel on interroge et réinterroge sans cesse sa propre culture et la culture de l'autre. Alors, je vais être un petit peu plus rapide sur le premier point, cette catégorie, je vais être même très rapide sur ce premier point, la catégorie hétérogène des migrants, simplement pour noter que pour les uns, on réfère à leur identité nationale et pour les autres, à leur identité ethnique. C'est-à-dire que d'un côté, on a les Algériens, les Russes, les Nigérians et de l'autre, on a les Roms. Ce qui me paraît déjà un premier point. Alors, qui n'est pas anodin et qui me fait penser aussi que finalement, dans ce contexte-là, on a une population qui devient, je sais que vous n'aimiez pas la dichotomie majoritaire-minoritaire, je me permets quand même de l'utiliser dans ce contexte-là, on a des Roms qui deviennent majoritaires et visibles, et ce qui me paraît intéressant par rapport à leur situation à l'extérieur du CHU, où ils sont minoritaires et invisibles. Et ça leur donne finalement une certaine force dans ce lieu, parce qu'ils sont les plus nombreux et parce que aussi la taille des familles est beaucoup plus importante que pour les autres populations. Alors il y aurait des choses à dire sur les raisons de la migration, qui ne sont pas les mêmes pour les Roms et pour les autres, les projets aussi éventuellement de retour vers le pays, et la question du rapport à l'école. Alors pourquoi aussi la catégorie communauté Roms, on en parlait ce midi, ne me satisfait pas complètement, parce que moi je me rends compte que dans cette communauté, on a des familles complètement différentes, c'est pas parce qu'ils viennent du même pays qu'ils se ressemblent forcément, et donc, des raisons migratoires différentes, un rapport à l'école aussi qui peut être très variable d'une famille à une autre, donc pour certaines, effectivement, des difficultés à scolariser les enfants, et pour d'autres, la scolarisation se passe très bien. Donc voilà un petit peu la question de l'hétérogénéité de cette catégorie migrante. Par rapport à la question donc des négociations inter- et intraculturelles et éducatives. Alors, venir d'ailleurs et vivre ici, c'est vrai que habiter en CHU, c'est quand même très particulier. Alors, pour ceux qui sont à l'extérieur du CHU, c'est un privilège, d'accord ? Parce qu'ils sont dans une structure rassurante, qui fonctionne avec une équipe permanente. Je reviendrai sur la permanence de l'équipe, qui induit aussi un mode de fonctionnement particulier. Une dimension collective et multiculturelle, un espace particulier, donc à savoir vivre dans des chambres d'hôpital, et une seule entrée au bâtiment qui permet à l'équipe socio-éducative de voir, je ne dis pas contrôler, je ne dis pas qu'il y ait un projet de contrôle, mais en tout cas qui permet d'assister aux allées et venues des familles dans le bâtiment. Les négociations interculturelles, elles ont lieu entre les familles et les professionnels, mais aussi entre les familles et les autres familles. Ça va se jouer au niveau de l'espace, au niveau des activités de la vie quotidienne, la cuisine, la religion. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, l'espace commun comme un espace où on va pratiquer sa religion ? Ça devient objet de négociation. La question du ménage, etc. Les négociations intraculturelles, du fait de leur présence dans ce CHU, elles se font notamment par rapport à des traditions. Alors on parlait tout à l'heure du mariage forcé, dans le cas là, des Roms, je parlerai plutôt de la question du rapt, des jeunes filles en vue de leur mariage, qui est beaucoup remis en question en France et dans ce cadre-là. La question aussi d'avoir des enfants et avoir beaucoup d'enfants. On voit que les femmes se posent beaucoup de questions par rapport à ce qui est considéré comme étant une tradition, notamment du point de vue des hommes, et le rapport aussi à la santé, notamment le fait de ne pas vouloir se soigner, du peur de la visibilité du soin et de la prise en charge hospitalière qui ferait qui aboutirait finalement à une mise à l'écart de la personne. Je voudrais terminer, j'en avais vraiment trop fait, sur la question de la division du travail éducatif donc, dans ce CHU. Alors moi je l'ai étudié notamment à travers la question du partenariat autour de l'école, donc entre les familles et les travailleurs sociaux et entre les familles et l'école, et on se rend compte que, notamment dans les réunions de l'équipe, il y a un ensemble de questions qui émergent, qui est de savoir finalement quels sont les rôles des uns et des autres. Est-ce que les parents sont responsables de la scolarisation, de la scolarité des enfants, ou est-ce que ce sont les travailleurs sociaux ? Et ce que j'ai pu noter, c'est que du point de vue de l'école, les interlocuteurs directs ne sont pas forcément les parents. Ça devient les travailleurs sociaux. Et donc finalement, les travailleurs sociaux se retrouvent à jouer le rôle d'interface entre les familles et l'école, et en même temps sont accusés de laxisme quand les enfants ne sont pas à l'école. Donc je trouve ça très intéressant. Ça a émergé aussi lors d'une journée d'études sur la question des partenariats, où les enseignants disaient « Mais que faites-vous ? Nous attendons les enfants ». Pourquoi est-ce que vous ne faites pas votre travail ? Ça posait aussi la question de l'obligation scolaire. Obligation, comment est-ce qu'on la fait appliquer et qui doit la faire appliquer ? Voilà, donc je pense que je dois conclure. Donc pour conclure et pour lancer plutôt, non pas pour conclure, mais pour lancer des pistes d'ouverture, finalement, les premiers éléments de cette recherche, moi, me font réfléchir à la question donc, du passage de l'intervention d'urgence à l'intervention de longue durée et quotidienne, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux, finalement, se disent « Mais qu'est-ce qu'on a à faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On voit les familles au quotidien, on voit les enfants au quotidien. Quel est le sens de notre action auprès de ces familles ? On le voit à travers l'école, on le voit par rapport à la question administrative, mais qu'en est-il de l'éducation ? Parce que c'est aussi ça qui se joue au quotidien. Et donc, on n'a pas encore prononcé le mot d'acculturation, mais moi je suis en train de voir que finalement ce CHU produit des acculturations réciproques. C'est peut-être un pléonasme, mais il me semble que quand on parle d'acculturation, on le voit surtout dans le sens de ce que les familles migrantes vont emprunter à la culture du pays d'accueil. Et moi je me rends compte que finalement le fait de vivre au quotidien avec les familles migrantes a aussi des effets sur les travailleurs sociaux et sur leur propre culture. Donc je donnerai juste quelques exemples, ce qui les met aussi parfois dans des situations de contradiction. Alors, juste un exemple, comment est-ce qu'on intervient sur les modes éducatifs des familles quand, par exemple, on juge qu'il y a violence ou qu'il y a maltraitance? Et quand la famille, par exemple, répond, un père répond, « Oui, mais moi, si je ne donne pas une correction en public à mon fils parce qu'il a fait une bêtise, je ne vais pas être pris au sérieux par les autres familles. » Et je vois que les professionnels ont du mal à réagir à ça. Et l'assistante sociale me disait, je crois que plus je vis avec eux, ils vivent ensemble, plus je m'habitue aussi à certaines pratiques ou à certaines choses qui peuvent être expliquées par les familles comme relevant de leur modèle éducatif. Et finalement, qui je suis moi pour dire ce qu'ils ont à faire ou pas à faire? Alors, dans une situation de, comment dire, qui implique une violence physique, ils vont réagir, mais ça va se retrouver sur d'autres plans. On voit aussi qu'ils s'habituent aux familles dans la mesure où, par exemple, les familles sont là depuis longtemps et on me disait dernièrement, mais tu te rends compte, Raluca, qui a 5 ans, elle est née ici. Elle est née ici. C'est le lieu où elle a grandi, elle a ses repères, elle n'a rien connu d'autre. Et nous, on a appris aussi à être avec elle, dans l'interaction avec elle, par rapport à cette durée-là. Voilà, et donc je terminerai aussi sur le dernier point. Boltzmann disait justement dans un texte que le long terme est l'horizon idéal de l'action par rapport à l'urgence. Et là, finalement, pour les professionnels, on est plutôt dans quelque chose de complètement différent, où ils remettent en question justement ce travail éducatif, ce travail social sur le long terme qui leur fait revoir complètement leurs pratiques, qui étaient plutôt des pratiques éducatives ou sociales d'urgence. Voilà, excusez-moi d'avoir parlé très vite.